Alexandre Adler, bonjour.
Bonjour. Au fond, Tariq Ramadan, il n'est ni affreux, ni sympathique. Je suis beaucoup plus choqué par des traîtres juifs comme les Bromanes et autres. Alors évidemment, ça, Monsieur Mermet, le journaliste brejnevien, Monsieur Langlois, le chef de Politis, quelques autres, ils savent dire les choses autrement. Et c'est comme ça qu'on peut pas les coincer, ceux-là. Ces gens-là me semblent infiniment plus méprisables, infiniment plus répugnants.
Merci Alexandre Adler.
Au revoir.
Une grosse bavure, une dérive, vous l'avez compris, j'espère, voilà une semaine que chaque jour, dans là-bas, si j'y suis, nous diffusons cet extrait d'un entretien entre Monsieur Alexandre Adler, journaliste, historien bien connu, et Madame Elisabeth Chemla, qui est l'animatrice d'un site qui s'appelle proche-orient.info, et c'était le lundi 13 octobre où Monsieur Adler répondait aux questions de Madame Chemla. Il s'agit évidemment d'un site auquel on a accès publiquement, il n'y a rien de privé là-dedans. Donc on a fait ce montage avec Coy, en essayant de respecter l'esprit de l'entretien et avec ces phrases. Bien, alors on le rediffusera peut-être, on verra, en attendant peut-être que Monsieur Adler fasse des excuses ou réagisse, pourquoi pas, c'est pas exclu. Mais ce qui nous a intéressé évidemment, c'est vos réactions. Alors, de très très nombreuses réactions dans tous les sens, vous pouvez l'imaginer. On a j'ai choisi un certain nombre de vos commentaires parmi ceux qui n'étaient pas insultants, qui n'étaient pas trop dégradants pour les uns comme pour les autres. Et je crois que ça présente un intérêt par rapport à une question qui est très grave en ce moment dans notre société, et que vous connaissez, que nous vivons, qui est un point noir dans notre débat public. Là, il s'agit d'une dérive du débat public, bel et bien. En tous les cas, voilà un choix des messages que vous avez laissés à ce sujet sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bravo Alexandre Adler. Pour ma part, je suis prête à renoncer à écouter France Inter, qui commence à me désoler par sa partialité. Docteur Wurm à Clermont-Ferrand.
Bon, face à ce gros dérapage, comme tu disais, je suis allée sur le net pour réécouter parce que j'en croyais pas mes oreilles. Et puis, je suis allée sur le site que tu indiquais pour savoir qui pouvait diffuser des propos pareils. Alors bon, moi jusqu'à présent, je croyais que l'instruction élevait notre esprit et élargissait notre vision de l'humanité. Après les propos puants de Monsieur Adler, je révise mon idée. Évidemment, moi aussi, je suis donc un traître juif comme Ronny Bormann et les autres, parce que je pense que les êtres humains ont tous les mêmes droits. Est-ce que Monsieur Adler réalise qu'il rejoint ainsi les vrais antisémites, ceux qui veulent m'enlever à moi et aux autres juifs laïcs leur liberté de penser, sous prétexte que nous sommes juifs? Il veut nous obliger à une sorte de solidarité raciale, parce que je m'oppose à ce que Israël fait dans les territoires occupés en tant que juif, mais d'abord en tant qu'être humain. Je suis une femme libre et Monsieur Adler n'est pas un être libre. C'est un être qui est tombé vraiment dans l'ignoble par peur, je suppose. Ça ne peut être que ça, j'imagine. Je comprends pas sinon. Et quant à toi et à Langlois, bien sûr, vous êtes des êtres libres aussi et continuez à l'être. C'est dommage que quelqu'un comme lui puisse usurper le beau titre d'intellectuel. Au revoir, Daniel.
Bonjour, c'est Jean-François de Besançon. Je téléphone parce qu'en sortant du travail, je suis encore tombé sur l'émission de Daniel Mermet. Et je suis tombé aussi sur le martelage médiatique qu'il nous fait avec Adler qui repasse en boucle. Je trouve que c'est des méthodes qui sont loin d'être démocratiques. Et je me pose beaucoup de questions quant justement à la qualité du débat qu'il essaye d'instaurer. grâce à une radio qu'on paye tous les jours. Voilà. Donc maintenant, je suis amené à changer de radio entre 17h et 18h. C'est dommage. J'espère que, Daniel, je t'écouterai dans un mois ou deux, et j'espère que d'ici là, ça aura changé un petit peu. Voilà. Salut.
Oui. Et hier, en écoutant votre émission, j'ai été outré par les propos tenus par Alexandre Adler. C'est impensable. Je l'invite à lire le bouquin qu'a écrit Emmanuel Duverger et Romper Ménard, La censure des bien-pensants. Au dos de la couverture de ce livre, voilà ce qu'on peut lire. Au nom de la morale, des droits de l'homme ou des bons sentiments, les bien-pensants ont inscrit dans la loi l'interdiction des propos racistes, antisémites ou négationnistes, invoquant le respect de la vie privée, la défense des bonnes mœurs ou la protection des secrets d'État. Ils ne tolèrent pas davantage que certaines informations soient dévoilées, au point qu'il devient légitime de s'interroger « Est-il encore permis en France de penser ou de débattre librement ?» Criminaliser certaines opinions, fussent-elles abjectes ou aberrantes, n'est pas acceptable dans une démocratie. Tout doit pouvoir être discuté. Les Français sont adultes. Il faut en finir avec cette caporalisation de la pensée, cette exception française, l'autre nom de la censure dans le domaine de la liberté d'expression, pour qu'en France, nous n'ayons plus seulement le droit de nous taire. Tous les encouragements à l'équipe de Beauvais pour Sainte-Afrique.
Je vous appelle parce que je viens d'entendre la retranscription de l'interview d'Alexandre Adler. Là, j'avoue que je comprends plus parce que, je suis déjà assez régulièrement choqué par les réactions dès qu'on parle d'Israël, qu'on parle des Juifs. Je comprends pas la haine que ça déclenche. L'islam est en train d'être considéré à peu près pareil que les Juifs à un moment. Sur le fond, que ce soit juste la religion qui soit traitée comme ça, je m'en fous un peu, parce que c'est une création humaine, les religions, donc c'est faillible comme chacun de nous. Mais la haine qui se dégage des propos de ce type, dont la validité, c'est un philosophe, je sais pas exactement, je dois manquer de culture pour mieux connaître ce type-là, mais les traîtres juifs, ça sent la haine à plein nez, c'est quand même, sans vouloir jouer les moralistes de comptoir, on va peut-être un petit peu garder les pieds sur terre. Journaliste brejnevien, mon pauvre Daniel, ça doit pas être facile à porter tous les jours d'être un journaliste brejnevien, je ne sais plus combien d'années après la mort de Brejnev. J'espère qu'un jour on sortira de ce type de rapport.
Oui, bonjour. Je téléphone à propos de votre émission que j'écoute depuis déjà longtemps. Et depuis lundi, je trouve qu'elle prend un tour assez particulier et voire totalement nauséabond. C'est votre générique où on entend Alexandre Adler parler de choses... Bref, vous le connaissez aussi bien que moi. Je trouve que cette façon de manipuler l'information, de passer, repasser, repasser ce morceau... C'est l'incitation à la haine raciale, voilà. À mon sens, c'est pousser les gens qui sont peut-être un petit peu limites à faire des choses qui soient contre les Juifs. Voilà, je suis désolée de le dire, c'est la première fois que j'appelle, mais là je suis totalement scandalisée par cette émission, voilà. Et j'espère que vous allez vous calmer un petit peu, au revoir.
Bonjour Daniel et merci, je voulais juste vous raconter une anecdote concernant notre ami Alexandre Adler. Au début de l'année, notre ami Alexandre Adler a fait une magistrale chronique sur l'attentat qui a eu lieu à Stockholm. C'est un attentat à la bombe qui a touché l'entreprise IKEA. Dans sa chronique, Adler nous démontre que l'attentat est le fruit de la bande et la nébuleuse d'Al-Qaïda. Et que Al-Qaïda s'attaque dorénavant aux grandes entreprises au niveau mondial. Mais le clou de l'histoire, c'est que quelques jours plus tard, la police suédoise a arrêté deux malfaiteurs qui étaient à l'origine de cet attentat. Les deux malfaiteurs, après interrogatoire de la police, ont démontré qu'ils voulaient juste faire un chantage à cette entreprise. Depuis, j'ai demandé plusieurs fois une réaction à M. Adler, qui fait la pluie et le beau temps en France Culture, mais ma demande est restée sans réponse. À plus, je vous souhaite bon courage. Merci.
Alors ça, je pense que cet auditeur doit attendre un petit peu. Monsieur Adler a du retard dans son courrier, ça nous arrive à tous, mais je suis persuadé qu'il va donner une suite à cette demande, à cette lettre en tout cas. Voilà, d'autres messages sur cette affaire, faut bien appeler ça quand même une affaire. Un message, celui-là, c'est celui de Maurice Rachfuss, que vous connaissez, qui est écrivain, qui est historien, et qui a notamment écrit beaucoup sur la rafle du Veldiv, dans la collection Que sais-je, la rafle du Veldiv. Il a écrit un livre qui s'appelle Opération Étoile Jaune, aux éditions du Cherche-Midi, Paris 1942, chronique d'un rescapé sur le même thème, pour la raison que Maurice Rachfuss avait à l'époque, en 1942, il avait 14 ans, et qu'il a réchappé à la rafle du Veldiv, et que c'est un peu la base de sa vie et de son œuvre. Il y a une pièce d'ailleurs qui se joue en ce moment, sur son travail, sur ses bouquins. C'est au théâtre du Lavoir moderne, théâtre du Lavoir moderne parisien. C'est 35 rue Léon à Paris, dans le 18e arrondissement. C'est au métro Châteauroux. Ça s'intitule La rafle du Veldiv. C'est mis en scène et joué par Philippe Augouze, un excellent comédien, grand artiste. Et je vais même vous donner le numéro de téléphone pour réserver au théâtre du Lavoir moderne parisien. C'est le 01 42 52 09 14. Revenons à cette affaire et écoutez ce que nous dit le message que nous a laissé Maurice Rachfuss.
Salut Daniel, j'ai entendu avec stupéfaction les propos d'Alexandre Adler sur Ronnie Broman dans le magazine Proche-Orient Info le 13 octobre dernier. Je suis écœuré et c'est peu de le dire. Le 7 octobre, j'ai failli me faire piéger par les curieux journalistes de cette officine dont j'ignorais tout encore. Il m'avait été demandé de venir témoigner sur ce journal en ligne de la répression raciste en 1942. Quelle ne fut ma surprise en arrivant dans les locaux de Proche-Orient Info. En effet, sur l'écran internet, prêt pour l'interview, je pouvais lire le titre déjà préparé, « Enfant juif de point de l'étoile jaune à l'attentat de Haïfa ». Refusant avec indignation de me prêter à cet amalgame, je fus traité tel un renégat par la rédactrice en chef Elisabeth Chemla, et même menacé de me faire tirer dessus dans la rue par un journaliste jadis irréprochable. J'espère que vous passerez ce message. Salut.
Oui, bonjour, je suis Hélène de Toulouse et j'écoute assez souvent France Inter et aussi Daniel Mermet. Mais je suis un peu agacée par le matraquage autour de ce dérapage malheureux, c'est vrai, d'Alexandre Adler. Alors avec cette insistance, reprendre sans arrêt cette discussion, alors je ne sais pas, est-ce que ce ne serait pas plus simple d'inviter Alexandre Adler et d'en discuter avec lui? Parce que vraiment, à chaque début d'émission, on se demande jusqu'à quand ça va durer. Voilà, ben c'est tout. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel. Et voilà, j'ai pu très souvent l'occasion de t'écouter. Alors j'ai pris l'émission sur Internet. Et l'émission d'hier, j'ai suivi en début d'émission la sortie plutôt surprenante de Monsieur Adler. Et alors toi, tu as commenté derrière en disant que c'était un gros dérapage. Alors, es-tu sûr qu'il s'agit d'un dérapage? Moi, je pense plutôt que les masques sont tombés. Ce qu'il y a de bien, si on peut dire, hein, ce qu'il y a de révélateur en tout cas, dans la période actuelle de l'intifada, c'est que les masques sont tombés. Voilà, la prose d'un certain nombre de personnes qu'on appelle tour à tour intellectuelles ou philosophes, leur prose s'est révélée pour ce qu'elle était, c'est-à-dire des mots. Voilà, ils pouvaient justement nous faire la leçon moralement du haut de leur autorité morale autoconférée, sauf que aujourd'hui nous savons que c'est des mots, en tout cas que ça s'applique pas à tout le monde, que ça s'applique aux Palestiniens. Et alors, de savoir que nous savons ça, ça leur est insupportable. Parce qu'ils se rendent compte que du moment que nous savons désormais, nous ne croyons plus en ce qu'ils disent. Toute leur logorée qui leur permettait sur les médias d'avoir comme ça une forme d'ascendant moral, on n'y croit plus. Voilà, Monsieur Adler, on les entend souvent le matin sur France Culture, de sa belle voix veloutée, faire comme ça des géopolitiques du monde entier. Monsieur Mahathir, aujourd'hui, demain, ce serait Poutine, etc. Mais j'ai jamais entendu parler de Monsieur Sharon. Ça doit sans doute te faire mal, mais ne leur donne pas plus d'importance que cela à Monsieur Adler et à tous ses copains, parce que les masques sont tombés. Et puis voilà, je pense que dans 50 ans, voilà, on relira Derrida, on lira Lévinas avec beaucoup d'émotion, hein, on relira Foucault, on va commenter Bourdieu, mais de ces philosophes médiatiques, mais on retiendra que pendant qu'un peuple est écrasé par des dirigeants d'un autre peuple, eh ben au mieux ils ont tourné la tête, ils ont regardé ailleurs. Et puis qu'au pire, ce qui est le cas de beaucoup d'entre eux, ils y ont participé par leur diatribe intellectuelle. Et puis voilà, à très bientôt.
Oui, bonjour, je vous remercie pour toutes les émissions, mais en particulier pour le feuilleton de cette semaine qui s'intitule « L'honneur perdu d'Alexandre Adler ». À bientôt, au revoir.
Une langue de vipère distille son venin sur les ondes d'Inter, c'est mermé le malin. Libérons la galène de toutes ces calomnies, brûlons l'énergumène, reviens Radio Paris.
Raphaël, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'aimons, de servir et de suivre tes pas. Raphaël, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie.
Alors ça, c'est le cœur des intermittents de Nancy. S'ils avaient du travail, ils chanteraient pas des choses aussi désobligeantes. Mon pauvre Raffarin, c'est nous deux qui en prenons aujourd'hui plein la poire. Alors, on va parler des clandestins italiens aujourd'hui. On était à Calais hier avec les réfugiés qui essayent de passer vers l'Angleterre avec toutes les difficultés que ça représente, notamment pour ceux qui les aident, ceux qui sont solidaires, puisqu'il y a maintenant ce délit de délinquance envers les solidaires. Et là, on va retourner en Italie à Milan exactement le 28 mai 2002. On était à Milan avec des clandestins, parce que évidemment, à l'heure où on nous dit qu'il faut importer de la main d'œuvre immigrée dans notre pays à raison de 10 000 travailleurs chaque année, alors que le chômage vient d'augmenter de 1 point en septembre, on est un petit peu troublé. Eh bien, il faut savoir, je ne sais pas si c'est une consolation, que ça n'est pas très différent dans les autres pays européens. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va construire l'Europe. Donc, des messages sur ce sujet, d'autres messages sur d'autres sujets, et puis nous partons pour Milan.
Salut Mermé. Je dis bravo aux Aveyronnais qui ont fait obstacle au ministère de la Santé. Mais attention, cette manœuvre cache une revanche, car les ultralibéralistes qui nous gouvernent sont des partisans de la GCS. Le danger subsiste. Comme dit Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. Salut et fraternité.
35 heures, on s'en fout, on veut plus bosser du tout.
Oui, bonjour, Daniel Mermet. Il y en a marre d'entendre Jean-Pierre Gaillard annoncer toujours des cours de la bourse, que tout va bien, pendant que nous gagnons 406 euros par mois. C'est vraiment l'insolence. Merci.
Bonjour à toutes et tous, je suis Yann, un étudiant bénévole, un demi canadien, demi américain, qui travaille pour le Forum social européen. Je suis juste un des plusieurs exemples de bénévoles internationaux qui ont donné leur temps à la lutte pour un autre monde. Mais bien sûr, on a toujours besoin d'autres bénévoles. Si ça vous intéresse de participer comme bénévole, bénévole interprète ou d'héberger un européen pendant le forum, je vous invite à vous renseigner sur le site. Le site est www.fse-esf.org. Bye bye.
Bonjour, votre émission d'aujourd'hui me ravit parce qu'elle traite de l'incohérence de notre gouvernement qui veut d'un côté encourager l'immigration et d'un autre côté qui pourchasse les immigrés clandestins parce que paraît-il qu'on manque de main-d'œuvre. Alors pourquoi rejeter ces immigrés qui ont besoin de travailler?
Salut Mermé, c'est Rocco de Genève. Alors quelques mots juste pour saluer tout le courage de ces délinquants qui refusent la posture de l'hérisson qui est adopté actuellement par ce vieux continent qu'est l'Europe. Et pour saluer aussi tous ceux qui, en Europe, aux frontières de l'Europe, agissent de la même manière. Moi-même, je suis originaire du sud de l'Italie, d'une région qui, depuis quelques années, voit arriver sur ses côtes des centaines, voire des milliers de Kurdes et d'Afghans, d'Albanais. Et j'ai pu constater la dureté de la répression face à ceux qui, avec des actes valeureux et courageux de solidarité, s'appliquent à faire respecter un certain droit. Je soutiens et je salue tous ceux qui s'activent dans ce domaine.
Salut, c'est Daniel Mermet, la base où j'y suis, avec Francesco Giorgini.
Tutti clandestini.
Flight number 2, arriving from Kyoto.
Assassini! 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 Assassini!
Ah, l'Italie. Hein, l'Italie. On rêve tout de suite, hein, l'Italie. C'est les gondoles, c'est la musique, la nonchalance, le charme, les belles filles, les gars qui savent encore draguer. Ça... Ah, l'Italie, l'Italie, l'Italie. Ah, l'Italie. Fellini, Fellini, Pasolini, l'Italie. Eh ouais, vous vous souvenez, les Italiens chez nous, si vous avez quelques heures de vol, vous vous souvenez du marchand italien, l'épicerie italienne dans les années 50-60, on appelait ça comestible. Vous vous souvenez des Rital, ce qu'on appelait les Rital, Cavana par exemple, un Rital, Cavana, Colucci, Coluche, un Rital aussi. Vous vous souvenez, Pain et chocolat, ce film qui racontait l'immigration des Italiens vers la Suisse, la valise et la ficelle autour. Vous vous souvenez, oui, l'Italie, les Italiens des États-Unis et ceux d'Argentine. Et ceux d'Argentine, vous savez ce qu'ils font les Italiens qui vivent en Argentine et bien ils reviennent au pays aujourd'hui. Et sur leur route du retour... Eh bien, il leur arrive de rencontrer des gens qui font comme eux, sauf que, eh bien, ils viennent d'ailleurs. Ils viennent d'Albanie, c'est pas loin l'Italie, l'Albanie. Ils viennent du Pérou, ils viennent d'Équateur, ils viennent de partout, ils viennent des pays de l'Est, ils viennent d'Ukraine. Et pourquoi non? Et pourquoi non? Bah, pour vivre moins mal, pour essayer de s'en sortir, parce que chez eux, ben, ça ressemble un peu à ce qu'était l'Italie quand les Italiens fuyaient l'Italie. Tout ce que je dis là, vous le savez, on a les mêmes problèmes ici. Monsieur Bush, lui, a les mêmes problèmes avec les Mexicains, par exemple, les Latinos, tout le continent sud-américain. Alors aujourd'hui, on va se balader dans Milan. Désolé, les gondoles, ce sera pour une autre fois, d'autant qu'il n'y en a pas beaucoup, finalement, à Milan, de gondoles. Avec Francesco, on va rencontrer un type absolument formidable. Il s'appelle Fabio Parenti, Parenti. Retenez bien ce nom parce que les Fabio Parenti, il faut quand même avoir son pesant de kilomètres pour avoir la prétention d'en avoir déjà rencontré un seul dans sa vie. C'est un dimanche matin. On est sur un parking triste de, je sais pas quel quartier, un peu glauque, un peu comme ça, flottant, hirsute de Milan. Et on attend Fabio Parenti. Fabio Parenti connaît parfaitement les clandestins, connaît parfaitement les sans-papiers de cette bonne ville de Milan. Et il va nous les présenter.
Si è buttata, Silvio Berlusconi è quasi forno pensionata, perché mo tu stai pavanni i suoi debiti privati, casa fa pavare, vicchie di malate.
Vive preso in treccio fra politiche ed affari, a tutti gli italiani ha regalato tempi amari, finché venne per Silvio questa pensata mitica, è l'ora di inventare l'affare da politica.
Golfo schiatta, golfo schiatta, golfo si è buttata, per Gianfranco fine d'indoletta stai giungata, perché mo tu stai pavanni i suoi debiti politici, casa fa pavare, vicchie paralitici.
E i giudici ricettano a corrompere reata, e dopo tanto tempo hanno merda annacchiappata, ma poi arriva Silvia, già l'Italia già vera, a loro i conti svizzeri, i giudici in galera.
Golfo schiatta, golfo si è buttato PDS, perché mo tu stai pavanni tutte loro compromesse, pensione, occupazione, salari e contingenti, dati in danno cesso con grande conferenza.
Alors, on est vraiment chez les rats humains. Ah ouais, là. On est dans la banlieue de Milan, enfin. Dans la proche banlieue de Milan. Dans une usine désaffectée. Enfin, une usine en ruine, une grande usine en ruine. Hein. Les murs sont écroulés depuis longtemps. Les toitures sont écroulées. Il y a encore une cheminée, là. Au milieu des... des mauvaises herbes du printemps qui vient. Et là, il y a des gens qui vivent. Dans ces ruines, ils ont installé des baraques. Là, c'est vraiment des baraques de branches, de planches. Au milieu des détritus, au milieu des ordures, des bouteilles d'eau en plastique vidée. Voilà, là, il y a une baraque, sa moitié brûlée. C'est vraiment les rats humains, sont des clandestins. Des gens qui viennent d'un peu partout. D'Albanie, d'Équateur, du Pérou, de l'Est, beaucoup. Ils sont des milliers comme ça, dans la bonne ville de Milan, de Milan. Et voilà un garçon qui est là. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. D'où tu viens?
D'Albanie.
Albanie.
Et ça fait longtemps que tu es ici?
Trois mois.
Comment tu as fait pour venir?
On a commandé. Sur un Zodiac.
Sur un Zodiac. Combien on paye pour venir?
Et un million 700 000 euros.
Entre 500 et 800 euros.
On devait le faire 2 années.
C'est 2 années de travail.
C'est 2 années de travail pour arriver à passer. Et ici, tu arrives à te débrouiller sans problème?
Je travaille en manuel.
Je suis ouvrier de bâtiment.
Tu travailles au noir? Tu travailles comment?
Nero.
C'est noir.
Évidemment, ouais.
Évidemment, Nero. Nero.
Ah, noir, ouais.
Et combien tu gagnes par mois?
2 millions et 2 millions et 2.
1000 euros, 1100 euros.
Ma riesce a lavorare in maniera continuativa tutti i giorni?
Ouais, il arrive à travailler tout le temps. Il n'a pas de moment où il ne travaille pas.
Et évidemment, tu n'as pas d'assurance accident. Si tu as un accident?
Non.
Évidemment, ouais.
Rien, aucun.
Quoi? J'ai fait un accident de mes amis quoi d'est, prima, 2 semaines così. Non ho preso niente perché non è assicurato con la macchina. Sono andato sopra la pietra una macchina.
J'ai un copain qui a eu un accident sur le travail, son pied est resté pris dans une machine et il a rien eu.
Et tu vis seul ici, t'as pas de famille?
Ouais, ma famille est restée en Albanie.
Et tu envoies de l'argent là-bas?
Il y a une Albanie. Ouais. Je suis venu pour ça.
T'es venu pour faire manger la famille, les parents?
Il y a une Albanie. Ouais, sinon je serais pas venu.
Et tu concentres alors
700 euros.
Chaque mois, j'envoie 500 euros, 700 euros. Un peu plus la moitié de ce que je gagne.
Parce que je devais même manger, quoi.
Parce que je dois aussi manger ici.
Et tu peux sortir quand même un petit peu ici et...
Ouais, non.
Qui t'emploie? Qui te paye?
Mon chef.
Oui, mais d'accord, mais c'est quoi sa maison, sa boîte? Il a une... Comment s'appelle son entreprise?
Et non, elle a dit, parce que lavoro solo io, mio capo.
Nous, on est des sous-traitants, c'est moi et mon chef, et on travaille pour des autres entreprises. C'est de la sous-traitance,
Toi, on te paye en espèces, on te donne l'argent en espèces.
Ouais. Comme ça.
Si tu protestes, si t'es pas content, on te fout dehors, quoi.
Et bon, pourquoi faire protester?
Pourquoi je devrais me lamenter? Je travaille tous les jours, je prends mes sous, donc j'ai vraiment pas de quoi me lamenter.
Pourquoi se lamenter en effet, hein? Tout va bien, heureux comme un clandestin, aucun droit, mais pourquoi faire? Docile, corvéable, rejeté, tout est bon dans le clandestin, c'est un petit peu comme le cochon, ça sert de bouc émissaire, c'est la matière première de la xénophobie, ça vient manger les nouilles des Italiens, le clandestin, c'est parfait, c'est vraiment, puis en plus ça se plaint pas, comment dénoncer son employeur, ça revient à se dénoncer comme clandestin, c'est vraiment formidable. Ça pose quand même quelques problèmes aux Italiens, mais on va voir à travers ce que nous raconte Fabio Parenti, vous allez voir, ça c'est un drôle de bonhomme, que c'est pas forcément aussi simple que le présentent nos voisins italiens qui sont en train de renforcer la législation contre les clandestins, on appelle les charrettes de la mer, ces bateaux qui viennent d'Albanie chargés de ces sans-papiers qui essayent d'aborder des rivages plus hospitalier, des charrettes de la mer. Régulièrement, il y a des naufrages au large des côtes. Et Lampedusa, c'est un bel endroit, Lampedusa. Lampedusa, c'est l'endroit de tous les drames aujourd'hui. Et c'est pas seulement les Albanais qui viennent, on le disait, c'est tout des gens qui viennent de pays de l'Est, qui viennent d'Équateur, du Pérou, qui essayent tous, évidemment, de venir vivre mieux. Est-ce que c'est vraiment une invasion et est-ce que vraiment c'est un drame pour tout le monde en Italie, dans cette Italie où 30% de l'économie se passe au noir, échappe à tout contrôle? Ça permet quand même d'employer une certaine main-d'œuvre. Il faut bien de la main-d'œuvre pour ça. Eh bien, cette main-d'œuvre, elle est là. Elle est autour de nous. Elle est dans cette friche industrielle où nous nous trouvons. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu la curiosité de visiter ces friches industrielles, par exemple dans le nord de la France ou dans l'est du pays. Faites-le un jour. C'est accessible souvent. S'il y a un panneau, deux, trois planches à pousser, faites-le et entrez dans ces espaces de dortie, de graffiti, de rouille. Près d'une autoroute où les bagnoles, où les TGV passent et vont en vrombissant. C'est des endroits bouleversants, c'est des endroits où des centaines, voire des milliers d'hommes, de femmes ont bossé, sont venus bosser, arrivant sur leur petit vélo avec leur petit bleu, leur petite musette, leur petite casquette, et repartaient 8 heures après, je dis pas le soir, parce que c'était souvent les 3-8. Et ça vibrait, ça faisait un foin épouvantable, les bécanes, les machines qui étaient là-dedans. Et puis, bon, ben, c'est fini, on a fait comme si la classe ouvrière avait disparu. Et dans cette friche là où nous sommes, voilà les fantômes de ces ouvriers qui reviennent. Ces jeunes Albanais sont là, au milieu des ruines, mais toujours là, en loque, certainement, mais là. En loque, pas tant que ça, ils sont jeunes, ils ont l'œil vif, et s'ils ne sont pas légaux, ils savent parfaitement, en tout cas, qu'ils sont légitimes.
Se ti danno l'espulsione, tu chiami lo stesso giorno.
Ma io ce l'ho un'espulsione.
Tu ce l'hai già. Preso...
Lui, il a déjà un arrêt d'expulsion, sur le dos.
Alors là, t'as un arrêt d'expulsion. Si jamais il y a un contrôle de papier, t'es reconduit à la frontière.
Ouais, exactement, ouais.
J'espère que non.
J'espère que non, évidemment.
Mais bon, tu habites là, c'est ça, t'as raison? On va jeter un coup d'œil.
Ouais, c'est vraiment un trou à rats, quoi. Hein. C'est un trou à rats.
Vous êtes combien ici dans ces ruines, là?
Non, ça va être des personnes.
Une vingtaine, à peu près.
Une vingtaine de personnes. Uniquement des hommes, des garçons?
Garçons. Seulement des garçons. Il y a deux ans, ici, une du Fab, était en soixantaine.
Il était une soixantaine. Et comment t'es arrivé jusqu'ici? Comment t'as su,
C'est des copains qui m'ont indiqué qu'ici on pouvait se construire une petite baraque et comme j'ai pas de maison, j'ai rien, donc je suis venu ici. Sans permis de séjour, t'as rien.
Ouais.
C'est complicato.
Io ho portato a farlo perché siete dalla TV francese. Cioè, se fosse dalla radio italiana, il problema è che domani voi andate in onda in Italia e dopodomani la polizia viene qua.
Cette tournée qu'on fait dans ce lieu, on l'a fait parce qu'on est la radio française. Parce que si vous étiez la radio italienne, vous le faites passer demain sur la radio et après demain il y a la police qui descend ici.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et la police qui descend, c'est un policier qui nous parle. Hein. Eh oui. Oui, vous avez entendu, c'est un policier. Eh oui, Fabio Parenti, qui nous guide, qui nous présente et qui nous montre comment vivent les clandestins de Milan, les sans-papiers de Milan. Eh ben, c'est un flic. Eh oui, ça arrive à des gens très bien, la preuve. Ça nous arrive à nous, à Francesco et moi. Et Fabio Parenti est un type absolument formidable, mais formidable, qui s'occupe, qui milite dans une association qui s'appelle NAGA, et qui depuis 14 ans, cette association milite pour venir en aide à ces clandestins depuis 14 ans. Donc c'est une situation qui dure. Je ne sais pas s'ils vont durcir vraiment la législation, mais je crois que c'est pour satisfaire une partie de l'opinion. Mais en fait, cette manœuvre, elle est absolument nécessaire à l'économie italienne. Et bien Naga, depuis donc longtemps, aide ces clandestins, mais aussi, c'est pas seulement une aide... seulement charitable. Il y a une connaissance sociale, disons, et politique de leurs conditions. Alors toi, Fabio, toi, tu t'occupes de cette association qui s'appelle NAGA, qui est une association qui a 14 ans, et votre activité, c'est de l'aide médicale aux gens qui sont dans la clandestinité, et vous faites 25 000 visites par an.
Seulement
sur Milan. Et sur Milan, il y a 200 000 immigrés étrangers, dont 20 à 30 000 clandestins. C'est-à-dire que dans cette ville de Milan, cette bonne ville riche de Milan, il y a 20 à 30 000 personnes qui sont dans la situation de Mario, quoi. Et qui sont des clandestins qui viennent nourrir tout un secteur d'activité dans le bâtiment, dans la contrefaçon, dans les usines, dans les ateliers de toutes sortes.
Dans l'agriculture et aussi il y a une très forte demande, comme disait Fabio, des familles, c'est-à-dire d'aide familiale, aussi bien pour garder les enfants que pour garder les vieilles personnes, que pour faire de l'infirmière à domicile, notamment les filles qui viennent de l'Est et de l'Amérique latine. Il y a beaucoup d'infirmières qui immigrent ici parce que avoir une place dans une maison de retraite, ça coûte par exemple 1500 euros par mois. Alors que payer une aide à domicile immigrée, si possible clandestin, ça fait à peu près 300 euros par mois. Donc c'est très intéressant du point de vue économique de pouvoir embaucher ces gens.
Ce que tu dis aussi, Fabio, c'est que quand vous avez commencé votre activité avec cette association qui s'appelle NAGA, il y a 14 ans, c'était essentiellement des Maghrébins.
Voilà. 14 ans fa. Plus de la metà venivano dal Maghreb.
Plus de la moitié venait du Maghreb.
Poi è cambiato il flusso, poi hanno cominciato ad arrivare quelli dell'Est e dell'America Latina.
E poi c'était le moment des immigrés de l'Est et de l'America Latina.
L'immigrazione latinoamericana è raddoppiata da un anno all'altro, passando dal 20 al 40% per via della dollarizzazione dell'Ecuador, perché in metà sono ecuadoriani.
In un'année, l'immigrazione en provenance de l'America Latina a doublé, e la plupart c'est des Ecuadoriens, e ils ont commencé à arriver depuis que l'Ecuador a institué la parité avec le dollar.
Contro il governo Berlusconi, contro le guerre che fanno nei Balcani in Afghanistan, contro la legge Bossi-Fini, per il permesso di soggiorno per tutti e senza condizioni.
C'est hallucinant, ce spectacle d'Irvine là. Et alors là, il y a d'autres gars qui habitent, hein. C'est hallucinant, hein, usine en ruine depuis longtemps, hein. C'est un tas d'ordures, quoi. Autant dire un tas d'ordures de gravats, de débris. Et là, en hauteur, là, Il y a des planches à nouveau, et un tas de planches. Il y a des gens qui habitent là, des gens qui se sont fait leur bidonville là-dedans, quoi. Là aussi.
Nous disait Fabio une chose importante, c'est que dans ces conditions-là, dans des lieux comme ça, sur les 20-30 000 qui sont clandestins à Milan, il y en a à peu près 6-7 000 qui habitent dans des conditions comme ça.
Les postes systémiques un peu meilleurs, quelles où magari hanno un téléviseur, parce qu'ils sont riuscite à agganciare l'énergie électrique, le téléviseur sparisce, le téléphone sparisce, les soldi spariscono.
Dans les lieux qui sont un peu mieux organisés, où par exemple ils arrivent à se brancher à l'électricité, ils mettent une télé, ou alors un téléphone, ou alors quand il y a la descente de police, télé, téléphone, tout ça, ça disparaît, le fric disparaît.
Tanto, qui dénonce?
De toute façon, qui va dénoncer ces polices?
Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que tu es policier, hein, Fabio. Tu sais, les Français, depuis Gênes, ils font une très très mauvaise opinion de la police d'Italie.
À Genova, c'era anch'io, ma non stavo con la polizia.
Moi, j'étais à Gênes, mais j'étais pas des côtés des policiers.
Ah bon?
Eh, sì.
Tu t'es fait courser par les policiers à Gênes?
Diciamo che ho schivato le cariche.
Comme je connais un peu, j'ai arrivé à esquiver les charges. Mais j'ai vu les charges de police.
On tombe toujours sur des drôles d'oiseaux. Hein. Tu es le seul policier, Fabio, le seul policier à avoir occupé une église avec des sans-papiers.
Si. Ouais. Ça me crée quelques problèmes.
Ça me crée d'ailleurs quelques problèmes.
Bah oui, on peut imaginer.
Però dato che formalmente non ci sono state delle denunce da parte del cardinale.
Comme heureusement le cardinal de Milan n'a pas porté plainte contre cette occupation.
Non hanno potuto agire in maniera diretta contro di me.
Ils ont pas pu agir d'une façon directe contre moi.
Comunque il punto è che adesso in Italia si fa un gran parlare di legalità. Io della legalità mi occupo quando sono in divisa. Quando la divisa non ce l'ho, mi occupo di giustizia. Come deve fare qualsiasi cittadino?
En ce moment en Italie on parle beaucoup de légalité. Moi je m'occupe de la légalité quand je suis en uniforme, mais quand je ne suis pas en uniforme, je m'occupe de justice. Et c'est ça qu'il faudrait faire, que tous les citoyens devraient faire.
Ouais. C'est dommage qu'il fasse pas quand il a son uniforme aussi, Fabio. Voilà, oui, un type absolument formidable. On n'a pas beaucoup de mérite, hein, je dis ça, rencontrer des gens comme ça, en fait, on en a plein de gens qui s'engagent, des lutteurs sociaux, comme ça, il suffit de se balader, comme on dit, sur le terrain, hein, sur le terrain, en bas, là c'est l'Italie d'en bas, et bien on rencontre des gens comme ça, qui ont une conscience. Alors, vous vous souvenez, dans cette manif où on était à Rome avec Francesco, des immigrés africains se baladaient avec une pancarte sur laquelle ils avaient écrit « Wanted but not welcome », hein, « Recherché mais pas bienvenu ». Eh ben, c'est le cas de ces 20 à 30 000, on rêve, hein, clandestins qui assurent ce secteur économique, la prospérité de ce secteur économique. Autour de Milan. Je dis ce secteur, je devrais dire ces secteurs, dont la contrefaçon, ça c'est une branche très très importante. Vous portez des trucs là, des machins un petit peu contrefaits, ça vient pas d'une lointaine Chine, ça vient d'à côté, ça vient de la région, ça vient de ces endroits-là. Et on est vraiment dans une situation formidable pour les décideurs économiques, comme on dit. L'énergie est tout à fait renouvelable, c'est une énergie renouvelable, cette énergie humaine. C'est la vraie ressource humaine, elle est là, avec des continents entiers qui constituent aujourd'hui des gisements de main-d'œuvre qui ne sont pas encore exploités. On pourra exploiter quand on voudra vraiment à fond la main-d'œuvre africaine. On est loin, il y a encore un gisement considérable. La main-d'œuvre chinoise, vous vous rendez compte un petit peu, les employeurs de clandestins et de sans-papiers ont de l'avenir, tout comme les démagogues dont le pouvoir repose sur la xénophobie ont vraiment encore un très très bel avenir, sauf si dans quelle mesure l'expulsion favorise l'immigration clandestine.
C'est molto semplice.
C'est simple.
Prima che fossero costruiti campi per l'espulsione.
Avant qu'il y ait des centres de rétention.
Qua gli immigrati vivevano clandestini, ma tutto sommato venivano più o meno pagati, meno degli altri, ma più o meno pagati.
Les immigrés, ils vivaient comme clandestins, mais ils étaient à peu près payés, un peu moins que les autres, un peu moins que les réguliers ou que les italiens, mais ils étaient à peu près payés.
La situazione in cui non venivano pagati, venivano sfruttati al massimo, erano prevalentemente nel meridione, quindi...
La situazione où ils étaient très peu payés e très très fortement exploités, c'était surtout dans le sud de l'Italie.
Da quando hanno fatto i centri per l'espulsione?
Depuis qu'on a institué les centres de rétention et d'expulsion.
Continuano ad arrivare stranieri che hanno lavorato un mese e mezzo, 15 giorni e non sono stati pagati.
Il y a de plus en plus de gens qui sont mis dans les centres de rétention, qui sont des gens qui ont travaillé un mois et demi, ou alors 15 jours, 3 semaines, et qui sont pas été payés.
E non possono denunciare, perché ovviamente la prima cosa che prenderebbero è l'espulsione, il rischio loro è dell'espulsione, quindi di vanificare tutto il percorso fatto fino adesso.
Et ils peuvent jamais dénoncer leur patron, parce que si ils dénoncent leur patron, ils s'autodénoncent et donc la première chose dans laquelle ils encourent, c'est l'expulsion. Et ça mettrait à zéro tout le parcours difficile qu'ils ont fait pour arriver jusqu'ici.
Quindi, paradossalmente, più è forte la pressione, più è forte l'espulsione, meno costano i lavoratori e più domanda c'è di questi lavoratori.
Donc, paradossalement, plus la clandestinité est réprimée, plus il y a d'expulsion, moins la main-d'œuvre est chère et donc plus elle est intéressante et donc plus il y a de demandes de cette main-d'œuvre-là.
Quindi maggiore la repressione, più forte l'immigrazione.
Donc, plus de répression, plus d'immigration, parce que comme il y a plus de demandes, il y a aussi plus de, évidemment, des gens qui vont venir.
Cioè, questo l'ho scoperto un mese e mezzo fa, che uno dei meccanismi per trovare lavoro, intanto il lavoro si compra e si vende, stranieri.
J'ai découvert il y a peu un nouveau mécanisme du marché des travailleurs immigrés clandestins. Faut savoir que les boulots, ça s'achète et ça se vend, même voilà, parmi les clandestins.
Uno dei meccanismi è pagare 1,5 milioni, 2, un caporale, per iscriversi nelle liste delle persone che il caporale userà per lavorare. Poi il caporale tratterà anche una parte dello stipendio, però bisogna pagare l'iscrizione.
Un dei meccanismi che je viens de découvrir, c'est qu'on peut s'inscrire sur le liste des capots qui font du recrutement.
Recrutement des travailleurs.
Et pour s'inscrire sur la liste, qui est sur la liste, il faut payer entre 500 et 1000 euros. Juste pour être sur la liste. Après, le caporal, il vient te chercher. Évidemment, il prend un pourcentage sur ton salaire. Mais déjà, pour être sur la liste, il faut payer entre 500 et 1000 euros.
Et imprenditoria pura.
Être caporal, c'est déjà un business à lui tout seul.
Ce qui est terrible, c'est que la protestation, le système est génial, parce que la protestation, là, on voit un homme, là, qui vient de rentrer dans le service, mais c'est extraordinaire, quoi. Il s'est faufilé presque comme un rat dans ses ronds servines, ses éboulis, ses fatras de pierre, de barbelés rouillés, d'arbres en fleurs, d'ailleurs. Le type vient se faufiler. Mais il va pas se plaindre.
On remarque qu'il y a des choses qui sont mises pour les chats. Et ça, c'est les Italiens, c'est les voisins d'ici qui mettent des petits trucs pour les chats, tu vois, une petite...
Oui.
Il y a tout, une assistance aux chats, mais il faut rien pour les hommes qui habitent.
Ah oui, regarde, il y a un petit panier pour les chats.
Les Italiens sont stranés parce qu'ils ont un racisme victimiste.
Les Italiens sont étranges parce qu'ils ont un racisme victimiste.
C'est-à-dire?
Cioè? Vuol dire che non hanno un razzismo dettato da un sentimento di superiorità.
Ils ont pas un racisme qui vient d'un sentiment de supériorité.
Ma proprio da un vittimismo tipico italiano. Questi vengono qua, ci portano via il lavoro, ci rubano le donne, portano la criminalità.
C'est un racisme de victimes, c'est-à-dire que, ces gens, ils viennent, ils nous prennent notre boulot, ils nous prennent notre femme, ils sont des criminels. C'est pour ça qu'ils sont racistes, pas parce qu'ils pensent que...
Non deriva da un senso di superiorità, ma da un complesso di inferiorità permanente.
Ça vient pas d'un sens de supériorité, mais plutôt d'un complexe d'infériorité.
E l'altra cosa curiosa è che sono tutti razzisti, fuorché con quelli che conoscono loro.
E sono tutti razzisti, ma pas avec les gens qu'ils connaissent. C'est-à-dire qu'ils peuvent très facilement avoir un racisme.
Un ragazzino che c'aveva con gli albanesi, ce n'aveva con gli arabi, aveva di fianco un ragazzo arabo, dico scusa, lui fa, no, ma lui è mio amico, non c'entra.
E souvent, t'assistes à des scènes où quelqu'un te dit, ouais, il y en a marre de ces albanais, de ces arabes, et alors qu'il est à côté d'un arabe ou d'un albanais, et tu lui dis, mais alors lui dit, non, mais lui c'est mon copain.
Eh oui, c'est pareil, c'est universel.
Il est même préférable de ne pas connaître l'autre pour pouvoir l'ignorer, pour pouvoir le haïr. Il faut ignorer son humanité, c'est-à-dire le diaboliser. On connaît bien le processus de la haine de l'autre. Alors, Donc, avec les clandestins, avec les sans-papiers autour de Milan, dans Milan, je dis autour de Milan, mais non, c'est dans la ville elle-même. Et alors, Rome veut durcir sa loi sur l'immigration, durcissement de la loi sur l'immigration, l'Italie déclare la guerre à l'immigration clandestine. On se souvient de l'épisode des passagers du Monica, des flots de clandestins qui abordent les côtes italiennes. C'est la grande menace venue de l'extérieur. Et alors, il y a des accords européens pour limiter l'immigration clandestine, pour réprimer cette immigration clandestine. Et alors, il y a des dispositions qui permettent d'étendre le délit à ceux qui ont connaissance de l'immigration des autres. Voilà, c'est ainsi qu'à Gibraltar, les cadavres des noyés, de ceux qui essayent de passer vers l'Espagne, ne sont pas réclamés. On peut se demander pourquoi. C'est des gens qui ne sont pas seuls dans la vie, ils ont des familles, ils ont... Eh bien, à cause de cette disposition, ceux qui viennent réclamer, ceux qui viendraient réclamer les corps, se dénonceraient dans le cadre de cette loi et seraient donc punis. Ça va très fort. Mais en même temps, encore une fois, ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est le clandestin, l'immigré, ça rapporte. Actuellement, il y a 10 millions d'Italiens qui vivent hors d'Italie. C'est donc une diaspora importante. Est-ce qu'on voit là ces gars qui sont en train de vivre dans la merde comme des rats, en train de se faire surexploiter en attendant, en espérant une vie meilleure? Dans toutes les familles italiennes, il y a cette mémoire-là, quelque part, des gens qui ont quitté le pays. C'est quelque chose qu'on connaît dans ce pays. Hein.
Et la mémoire appartient à qui est migrato.
La mémoire, c'est surtout de ceux qui sont partis.
Et quelli che sono rimasti non sono mai emigrati, se non all'interno dell'Italia. E anche all'interno dell'Italia, quelli che sono immigrati all'interno, comunque hanno un atteggiamento che non è sempre d'accoglienza, anzi.
Ma malheureusement, ceux qui sont restés o ceux qui sont immigré à l'intérieur de l'Italie ont rarement une attitude d'accueil.
Teniamo conto che qua la Lega Lombarda.
Ici, dans ces endroits là où on est, la Ligue du Nord.
In una città che ha meno di 100.000 abitanti di origine milanese. Tutti gli altri sono d'origine immigrata.
Dans une ville, Milan, qui a moins de 5000 habitants d'origine de Milan, le reste des gens qui habitent à Milan viennent d'ailleurs.
È arrivata da prendere il 30%.
Malgré ça, la Lega Nord, dans cette ville, è arrivata a faire 30%.
Ognuno difende quello che ha contro tutti gli altri.
Chacun protège son beefsteak.
Ouais, et puis en matière d'immigration, c'est le dernier rentré qui ferme la porte derrière lui, quoi. Mais non, mais là c'est une surexploitation, quoi. La destruction de la protection du travail permet une surexploitation et en plus doublée d'une exploitation politique par le truchement du fonds de commerce de la xénophobie. Ça fait une double exploitation. On veut le beurre, l'argent, le travail du beurre et le sang du beurre.
Sì, c'è una criminalizzazione continua del clandestino.
È una criminalizzazione continua del clandestino.
C'è l'equazione clandestino uguale criminale.
Il y a l'équation clandestin égal criminel et criminel.
Da parte di tutti i partiti.
E ça, aussi bien des partis de centre-gauche que de centre-droite.
Merci à tous, merci à tous. Technique aujourd'hui, Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne. Assistant Edouard Rex, le répondeur 0156 40 37 37, et c'est Christophe Imbert qui s'en occupe. Musique, Coy Nguyen, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. On se verra peut-être demain. Je serai à Calvi au Festival du Vent pour vous rencontrer, amis Corse et d'ailleurs. Le mail de la base CGC, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Il est 18h, vous allez voir, regardez ça, hop là, sur France Inter. On se retrouve de lundi à 17h. Frédéric Bonneau reçoit Shimon Peres dans Charivari dans quelques instants. Après le journal, Delphine Simon, salut.